Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Voilà, nous commençons donc une nouvelle saison et nous avons choisi de nous intéresser cette année à Saint Paul et à ses lettres, et plus particulièrement à sa lettre aux Romains. Pourquoi avons-nous fait ce choix ? D'abord, par étonnement devant le nombre impressionnant de nouveaux ouvrages qui lui ont été consacrés récemment. Comment se fait-il que l'on trouve encore autant de choses à dire à propos de ces textes qui ont presque 2000 ans et dont on pourrait croire qu'ils sont archi-connus ? Par quel mystère saint Paul continue-t-il à faire couler autant d'encre et à susciter autant d'intérêt et de passion ? Et une autre raison pour notre choix de cette année, le diocèse de Chartres a eu la chance d'accueillir il y a quelques mois l'un de ses auteurs passionnés et passionnants, le père Christophe Rimbaud, qui est vicaire général du diocèse de Tours, et qui est venu nous offrir une journée d'études sur la lettre de saint Paul aux Romains, dont il est l'un des spécialistes. Voilà, aussi nous avons eu envie de continuer de réfléchir sur ce thème en vous faisant partager nos découvertes et nos émerveillements.
Oui, il faut bien dire quand même que beaucoup de choses ont changé depuis une cinquantaine d'années. Les connaissances historiques se sont beaucoup développées. Et comme on connaît mieux saint Paul dans ce qui devait être vraiment la vie à son époque et les aspects plus concrets de sa personnalité, voilà, tout cela oblige à renouveler la manière de comprendre les textes que saint Paul nous a laissés. Alors c'est pour ça, depuis une dizaine d'années, les études exégétiques se sont multipliées et puis complètement renouvelées, au point qu'il semble même de régner une petite effervescence, presque digne des origines du christianisme. Alors je cite une phrase de Daniel Marguerat, tirée de son ouvrage « Paul, une théologie en construction ». Alors, l'exégèse de Paul ressemble aujourd'hui à une ville qu'un tremblement de terre a dévastée. Les gens s'agitent en tous sens, les uns évaluant les dégâts, les autres vérifiant ce qui tient encore debout. Chacun mesure les changements à venir, mais personne n'ose encore rebâtir par crainte de nouvelles secousses. Voilà. En fait, nous sommes donc dans une période passionnante de remise en question des acquis et du renouveau de la pensée chrétienne.
Voilà, tout à fait. Et nous allons essayer de nous introduire dans ces débats actuels pour tenter d'en prendre la mesure, de comprendre les enjeux et aussi de revivifier notre foi à la lumière de l'enseignement de saint Paul, revisité par l'exégèse contemporaine. Le défi est grand, le sujet est grave, important, et je pense qu'on sera souvent écrasé par l'ampleur de la science des auteurs auxquels nous devrons faire référence, mais c'est un peu l'option de notre émission, qui est d'oser aborder des questions bibliques parfois difficile, sans prétendre résoudre toutes les difficultés. Notre propos est surtout d'éveiller l'intérêt de nos auditeurs pour certains aspects de la foi chrétienne, tout en acceptant nos limites de chrétiens de base. Prenons donc courage et abordons notre nouveau parcours en commençant par relire la vie de saint Paul pour en préciser ou repréciser les contours. De quoi est-on vraiment certain en ce qui le concerne ? D'abord, à peu près qu'il est né vers l'an 10 de notre ère, à Tarse, en Cilicie. Tarse, c'est un port important qui se trouve aujourd'hui en Turquie. Et c'était à l'époque un carrefour du commerce maritime international, une ville importante et surtout cosmopolite. Et en plus, la Cilicie était alors une province romaine.
Voilà, et c'est ce qui est déterminant pour Paul, puisque cela lui a permis d'être un citoyen romain, ce qui était d'ailleurs un privilège rare, qui n'était accordé pas à tout le monde. Donc ce statut était réservé généralement à une élite sociale, et on suppose donc que la famille de Paul bien que juive orthodoxe, était parfaitement intégrée dans le monde romain. Il s'agissait certainement d'une de ces grandes familles de la diaspora, des commerçants, des artisans, installés tout autour du bassin méditerranéen. On pense que Paul avait des parents non seulement en Cilicie, mais aussi en Macédoine, à Jérusalem et même à Rome. Alors, étant né à Tarse, dont la spécialité était la fabrication et l'exportation des textiles, Paul a certainement appris un métier lié à cela, sans doute la fabrication de toiles pour des tentes de nomades ou pour des voiles de navigation, si l'on se réfère aux Actes des Apôtres, au chapitre 18, verset 3, où l'on voit qu'il s'installe à Corinthe, chez Aquila, fabricant de tentes. Je vous cite donc ce verset 3, « parce qu'ils avaient le même métier », nous dit ce verset. Donc voilà, c'est ce qui nous fait supposer qu'il était dans ce métier-là. Ce qui nous montre aussi que toujours Paul a travaillé de ses mains pour gagner sa vie quand c'était possible. Un peu plus loin, donc au chapitre 20, toujours des Actes, versets 34-35, il est dit ceci. « Les mains que voici, vous le savez, ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous l'ai toujours montré, c'est en peinant de la sorte qu'il faut venir en aide aux faibles. »
Oui, c'est saint Paul qui parle.
Voilà, oui.
Notre portrait de Paul donc se précise un peu. Il était citoyen romain. Son nom de Paulus le dit bien, d'ailleurs ça veut dire « petit ». On a conclu qu'il était petit. Mais c'était son deuxième nom, car d'abord, en tant que juif, son nom est Saül, Shaoul en hébreu. On sait par les écrits de Paul lui-même qu'il était d'une famille juive orthodoxe, issue de la tribu de Benjamin, donc dans les montagnes de Juda, au sud de Jérusalem. Et Paul s'appelle Saül comme le roi Saül, le premier roi des Hébreux avant David, qui était également benjaminite de la tribu de Benjamin. Donc cette famille était certainement fière de ses origines. Il pratiquait un judaïsme de type pharisien, c'est-à-dire de grande piété et extrêmement sérieux. C'est pourquoi Paul fut envoyé à Jérusalem pour ses études auprès d'un docteur pharisien réputé du nom de Gamaliel, c'est cité dans les Actes des Apôtres, et ce Gamaliel lui-même disciple de Hillel, un des grands maîtres de la tradition juive. Donc il est certain que Paul devint savant, lettré et maître dans la connaissance de la loi et des Écritures. Et de plus, il était certainement parfaitement trilingue, et peut-être quadrilingue, parce qu'il parlait l'hébreu à Jérusalem, mais sans doute aussi l'araméen. Évidemment, le grec, qui était la langue internationale, et le latin, forcément, à cause de ses origines. Et d'ailleurs, on pense qu'il lisait plutôt la Bible, c'est-à-dire la Torah, dans sa version grecque des Septante, comme généralement les Juifs de la diaspora. Parce que certaines de ses citations dans les lettres en témoignent.
Oui, donc Paul était donc un manuel, de par son métier, mais aussi un grand intellectuel. Mais il semble bien que ce n'était pas ses seules aptitudes. Les historiens nous expliquent que Tarse, étant une ville de culture gréco-romaine, il était habituel et même normal de pratiquer des sports. Et que c'est très certainement Paul, il avait quand même un entraînement physique intense, comme tout le monde, ce qui expliquerait à la fois qu'il emploie souvent dans ses lettres des métaphores sportives, en y invoquant les jeux du stade, mais surtout cela pourrait expliquer sa vigueur physique, qui lui a permis de traverser d'incroyables épreuves au cours de tous ses voyages. Par exemple, ses capacités de nageur, lorsqu'il fit naufrage, comme on le voit au chapitre 27 des Actes. En fait, Paul était un homme complet, plein de qualités, autant physiquement que moralement et intellectuellement. Alors, voilà, ce portrait succinct peut nous aider peut-être à comprendre pourquoi Jésus l'a choisi parmi tous ceux de sa génération pour être l'apôtre missionnaire que l'on connaît. Il était polyglotte, cosmopolite, habitué à voyager, grand intellectuel et cependant physiquement résistant, énergique. Mais aussi religieux fervent, sincère. Voilà, donc il avait en fait un profil idéal pour la tâche qu'il attendait.
Oui, l'homme complet. Voilà. Oui, c'est tout cela qui nous permet de comprendre pourquoi aussi Paul fut terrassé par une vocation assez spectaculaire. Parce qu'il fut choisi et appelé par le Christ ressuscité pour mettre ses multiples dons au service de l'Évangile. Tout le monde connaît, je pense, l'épisode dit du chemin de Damas, quand Paul militait contre les chrétiens qui lui semblaient être une secte néfaste, et comment il fut jeté à terre par une vision du Christ telle qu'elle le rendit aveugle pendant 3 jours. Et on sait comme cette expérience l'amena à une totale conversion que l'on situe maintenant vers l'an 34 de notre ère, où Paul avait donc environ 25 ans. Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous nous consacrons cette année à mieux connaître Saint Paul et ses lettres, et plus particulièrement la lettre aux Romains. Juste avant la pause, nous avions dressé un bref portrait de Paul et nous l'avions laissé immédiatement après sa conversion à Damas. En fait, l'expérience qu'a connue Saint Paul s'apparente aux vocations des grands prophètes, qui sont appelés et envoyés pour une tâche spécifique. Ce qui est à remarquer, c'est la relation directe de Paul avec le Christ ressuscité, et qui se confirmera tout au long de sa vie, alors que les autres apôtres furent d'abord disciples de Jésus comme homme présent parmi eux. C'est ce qui fit dire avec humour au père Charles Perrault de bienheureuse mémoire, le grand spécialiste de saint Paul, qui disait que Paul est le seul protestant approuvé par l'Église catholique, parce qu'il parlait directement à Dieu sans la médiation des apôtres. Mais ce ne fut pas sans problème pour Paul, parce qu'il a toujours dû batailler pour donner des preuves de sa légitimité, et il eut bien des difficultés à s'imposer dans le groupe apostolique, d'autant qu'on se souvenait du zèle qu'il avait mis à persécuter les chrétiens.
Oui. Ce qui est étonnant, c'est que malgré toutes ses qualités, Paul ne se décrit jamais lui-même comme un héros ou une vedette. Il a plutôt tendance à se déprécier, à se dire maladif ou faible. Il se traite d'avorton même, il est rarement satisfait de lui-même et désolé d'avoir été un grand pécheur avant sa conversion. Tout dans sa vie est ramené au Christ, comme si cette conversion avait complètement anéanti en lui sa personnalité antérieure, pour laisser donc là, maintenant, la place à un homme nouveau, entièrement dévoué au ministère d'évangélisation. Il est habité par l'Esprit et se lance sans réserve dans sa mission. Il est projeté vers l'avenir, va de l'avant vers les pays de l'Ouest méditerranéen pour y annoncer le Christ ressuscité. Quand on réfléchit à tout ce qui a été réalisé en quelques années, fondation d'une multitude de communautés chrétiennes, malgré les résistances des Juifs autant que des païens, ou même les persécutions des empereurs romains, hein, tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Et toujours Paul, il avance, hein, sans s'économiser, au mépris de ses souffrances, et même la mort ne lui fait plus peur. Pour lui, seul le Christ est important. Hein, et il dit d'ailleurs, si on reprend la lettre aux Galates, hein, dans le chapitre 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. »
Oui, il espère quand même que sa vie sera un modèle pour tous les chrétiens. On voit la première lettre aux Corinthiens, il dit au chapitre 11, verset 1, « Imitez-moi, comme moi-même j'imite le Christ. » Et c'est pourquoi il ne fera pas que prêcher la foi en la résurrection, mais il exhortera, stimulera, encouragera les fidèles à ne pas se contenter d'une croyance abstraite. et à se laisser transformer entièrement pour que, comme lui-même en faisait l'expérience, tout dans la vie quotidienne soit imprégné de la présence du Christ vivant. On imagine bien, en tout cas moi, j'imagine bien à quel point sa fougue et sa ferveur ont pu impressionner ceux qui l'approchaient. Il ne transmettait pas que des mots, mais aussi l'énergie dont il était habité, une énergie qui avait sa source en Dieu. Et c'est pour propager largement cette réalité palpable de la présence du Christ en lui qu'il entreprend autant de voyages, au risque de sa vie, espérant répandre cette force intérieure jusqu'en Espagne, où on n'est pas sûr du tout qu'il a réussi à aller pour autant, mais enfin, c'était son but. Il avait conscience et confiance en ce que le contact direct pouvait apporter comme effet de contagion, comme transmission de la foi vivante. Mais il avait beau être rempli de l'Esprit-Saint, il y a quand même des limites humaines, et donc il ne pouvait pas être partout. Non. Et c'est là qu'il faut remarquer l'importance des lettres qu'il envoie pour compléter, pour parachever sa mission.
C'est sûr, il n'envoie pas simplement du courrier pour donner des nouvelles par amitié. L'enjeu de ces lettres est considérable. Non seulement il lui faut proclamer l'événement de la résurrection et convaincre les esprits sceptiques, mais il veut aussi communiquer par des mots quelque chose de la puissance de l'esprit et du Christ. C'est ce qui explique donc quelquefois l'ardeur de son style. La flamme de la présence de Dieu en lui se communique à ses lettres. On est frappé encore aujourd'hui par la densité extraordinaire de ces petits textes qui semblent contenir à la fois du concentré d'argumentation théologique, mais aussi de la simplicité de la parole de vie du Verbe lui-même. Jamais Paul ne tombe dans la sophistication d'un langage trop littéraire. On sent qu'il veut vraiment rester à la portée de tous, mais quand même dire des exigences de la foi, sans les minimiser. Il a l'art de secouer ses interlocuteurs pour les empêcher de s'endormir ou de prendre de mauvaises directions, et en même temps leur dire et leur transmettre l'amour du Christ. Alors il adapte ses propos généralement aux situations concrètes de ceux à qui il écrit, pour rester proche d'eux et leur faire comprendre à quel point il se soucie de tous les problèmes spécifiques de ces nouvelles communautés. Qui sont un petit peu comme ses enfants dont il se sent responsable, qu'il veut aider, éduquer et bien sûr aimer.
Oui, il y a de la passion dans ses lettres, et je dirais même de la passion avec une majuscule, parce que comme Jésus, Paul donne sa vie pour ceux qu'il aime, et cela transparaît dans sa manière d'écrire. En fait, Paul avait plutôt l'habitude de dicter ses lettres à un secrétaire. Donc, celle-ci garde, je pense à cause de ça, une certaine spontanéité du style oral. En général, Paul ne prenait la plume, ou en fait à l'époque je pense un calame, que pour les salutations de la fin de la lettre. Il y a quelque part, je ne sais plus dans quelle lettre, où il dit « Voyez, non, avec quelle grosse lettre je vous écris ces mots, je devais écrire trop gros ». Là, il laissait déborder les marques d'affection et les recommandations chaleureuses. Mais pas toujours, pas toujours. Alors, il y a la lettre aux Galates, par exemple, qui est assez véhémente, voire dure, et qui se termine par une salutation assez amère que je vous lis. « Que personne ne me cause de tourment, car moi, je porte en mon corps les marques de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frère. Amen. » Voilà, c'est une finale un peu sèche. Et au passage, nous pouvons remarquer qu'on s'interroge toujours sur ces fameuses marques de Jésus que Paul dit porter en son corps. On ne sait pas ce que c'est. Certains commentateurs pensent qu'il s'agirait des stigmates, comme François d'Assise ou Padre Pio, mais en fait, on n'en sait rien. Tout ce dont on peut être certain, c'est que Paul avait Jésus concrètement, j'allais dire, dans la peau, en lui-même. En tout cas, il communiait jusque dans sa chair à la vie du crucifié ressuscité, et il estimait que ça méritait un peu de respect.
Voilà, les lettres de Paul comportent donc des conseils de vie pour les premiers chrétiens, mais aussi les reproches et les sévères critiques, le tout fondé sur des bases de doctrine, des arguments théologiques qui façonnent toujours notre foi aujourd'hui. Et la profondeur de ses enseignements doit beaucoup à sa capacité de s'adapter à des situations spécifiques, et à s'adapter aussi au lecteur à qui il envoie ses lettres. Les êtres humains ne sont pas très différents de nos jours finalement, et on peut retrouver dans nos propres communautés les défauts, les sottises ou les mesquineries que Paul dénonçait à son époque. Hein. Je crois que malheureusement, on n'a pas beaucoup changé. Et c'est ça qui rend aussi les épîtres intéressantes et tellement percutantes. C'est cela aussi, malheureusement, qui a fait dire à certains commentateurs que saint Paul n'était pas toujours cohérent et qu'il se contredisait souvent. Mais on se rend compte à présent qu'il ne faut pas juger les lettres de Paul comme on le ferait d'un traité de théologie. Il faut apprendre à les lire comme une pensée vivante qui s'adapte, qui se développe et s'enrichit progressivement tout au long du ministère de Paul. Et c'est aussi cela qui pourrait nous permettre d'actualiser ces textes pour nos propres difficultés quotidiennes. Alors, on doit bien sûr pour cela replacer les épîtres dans leur histoire, mais aussi d'abord dans l'ordre chronologique.
Oui, pour que ça colle à l'histoire de Paul. Certainement, on dirait moins de contre-vérités à propos de lui. Par exemple, ce qu'on dit qu'il est responsable de toutes les rigidités de l'institution catholique, dont la misogynie, par exemple, avec quoi je ne suis pas du tout d'accord. Si on arrivait à entrer dans la souplesse de sa pédagogie et son souci des problèmes concrets qui se manifestent tout au long de sa vie, ça n'enlèverait certainement rien au fondement théologique de sa pensée, au contraire. Et pour cela, il faudrait d'abord remettre les épîtres dans l'ordre historique de leur rédaction, c'est sûr. Parce que dans nos Bibles, elles sont classées, mais par ordre de taille. La plus grande devant et les plus petites derrière. Et ce qui n'est pas vraiment signifiant pour leur contenu. D'autant que du coup, l'épître aux Romains vient la première, alors qu'elle fut sans aucun doute la dernière qu'écrivit saint Paul. Écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous parlons de saint Paul, et juste avant la pause, nous évoquions la meilleure façon de lire ces lettres, qui serait peut-être de les replacer d'abord dans leur ordre de rédaction, puisque les connaissances historiques actuelles nous permettent approximativement de le faire. Il faudrait aussi tenir compte du fait que toutes ne sont pas directement de saint Paul, nous dit-on, mais que certaines sont des pseudépigraphies, donc écrite par d'autres, mais avec l'esprit de saint Paul. Jetons donc un rapide coup d'œil sur la liste des épîtres dont on sait qu'elles sont incontestablement de Paul, en les remettant dans leur ordre chronologique pour autant que l'on ait vraiment des certitudes, parce qu'il reste quand même un peu d'imprécision. Hein. Mais sûrement, la première, c'est la lettre aux Thessaloniciens qui vient en tête de la liste, la première épître aux Thessaloniciens qui date des années 51-52. La marge est quand même toujours un peu élastique. Il faut remarquer que c'est le tout premier écrit chrétien admis plus tard dans le canon du Nouveau Testament, puisque avant l'évangile de Marc, qui lui ne sera écrit que vers 70. Alors cette épître aux Thessaloniciens aurait été écrite par Paul durant un séjour à Corinthe.
Par contre, bien qu'il y ait beaucoup de points communs avec cette première aux Thessaloniciens, la deuxième lettre aux Thessaloniciens est souvent considérée comme n'étant pas authentiquement de Paul. Mais cela reste encore en discussion.
Oui, il y en a des qui disent oui.
On ne sait pas trop. Bon, voilà, il y a incertitude sur la chose. Ensuite, donc, vers 52-54, Paul se trouve à Éphèse. Et là, on pense qu'il a écrit la lettre aux Philippiens. Celle de Philémon, c'est moins sûr. Et ensuite, donc, la première lettre aux Corinthiens, probablement sa lettre aux Galates aussi. Puis, donc, vers 55, lors d'un séjour en Macédoine, il écrira sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et enfin, lors de l'hiver 57, passé à Corinthe, il y aurait écrit sa lettre aux Romains, la dernière, et certainement la plus importante, autant du point de vue de la dimension que du point de vue du contenu. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous allons nous attarder sur la lecture de cette épître et les commentaires récents qui s'y rapportent. Mais il y a un point important à voir avant d'aborder plus concrètement l'épître aux Romains. Nous devons d'abord passer par une rapide lecture de l'épître aux Galates, parce qu'elle aborde les mêmes thèmes. Elle est comme un brouillon de la lettre aux Romains, et elle montre bien le problème auquel Paul doit faire face.
Malheureusement, pour aujourd'hui, le temps est un petit peu accompli. Nous commencerons donc, lors de la prochaine émission, à regarder plus en détail l'épître aux Romains, mais d'abord l'épître aux Galates, puisqu'elles ont la même trame de base. Donc, à très bientôt, chers auditeurs. Au revoir.
Au revoir, Catherine. Au revoir à tous. À bientôt.